Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
Good morning business, le grand entretien.
C'est Benoît Cœuré, l'homme qui a dit non au mariage TF1-M6, le président de l'autorité de la concurrence et l'invité de Good Morning Business. Bonjour Benoît Cœuré.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là ce matin pour expliquer à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent qu'est-ce qui s'est passé vendredi matin. Vous avez réuni, je crois de manière distancielle, tous les protagonistes, les actionnaires, les dirigeants de TF1-M6, et vous leur avez dit... On vous dira non, sauf si vous vendez TF1 ou M6. Vous saviez que du coup, ils allaient abandonner le projet, non ?
Oui, alors c'était l'épisode final d'une discussion avec eux qui a commencé il y a plus d'un an, hein, en réalité, quand ils ont annoncé le projet, qui s'est accéléré en février quand le projet a été formellement notifié à l'autorité de la concurrence et qui a donné lieu à un rapport en juillet de 400 pages des services d'instruction de l'autorité.
Oui.
Ils ont répondu avec aussi 400 pages. Donc il y a eu ce dialogue tout au long de l'été. Et il y a eu les 5 et 6 septembre des audiences où on a auditionné, bien entendu, Bouygues et RTL et Bertelsmann, mais également tous les grands acteurs du secteur.
Notamment les annonceurs, hein, qui étaient très remontés. Hein.
Particulièrement les annonceurs, les producteurs, des plateformes en ligne, enfin, des représentants du secteur.
Et donc, vous leur avez bien dit vendredi matin, écoutez, on vous dira oui que si vous vendez TF1 ou M6.
Alors, après ces auditions et après tout ce travail d'instruction, le collège de l'autorité s'est réuni. Alors, le collège de l'autorité... C'est 16 personnes, en l'occurrence 17 personnes, en l'occurrence ils étaient 12 qui viennent à la fois du secteur public et du secteur privé. Donc c'est très varié et pluraliste. Hein. C'est pas que les fonctionnaires de l'autorité et de la concurrence. Il y a aussi des membres qui travaillent dans des entreprises, des magistrats, etc. On s'est réunis, on a délibéré et on a conclu que l'opération n'était pas possible en l'état, puisque elle aurait créé un acteur qui aurait été ultra dominant sur le marché de la publicité télé.
70%.
Plus de 70% sur le marché de la publicité télé, qui aurait également eu un pouvoir de marché très fort sur la distribution, c'est-à-dire la distribution par les fournisseurs d'accès Internet.
Et d'imposer ses tarifs.
Et qui aurait pu donc non seulement imposer, mais augmenter ses tarifs au détriment des téléspectateurs. Peut-être aussi, mais dans une moindre mesure, sur le marché de la production, c'est-à-dire l'acquisition de films français, de programmes de flux, etc. Et il n'y avait pas de solution, parce que quand on a un tel pouvoir de marché, la seule solution, c'est de vendre, c'est d'être plus petit.
Même en vendant TMC et W9, ça suffisait.
TMC et W9, ça suffisait pas. Ça faisait pas rentrer l'édredon dans la valise, si vous voulez.
Ça, c'est le marché tel qu'il est aujourd'hui, tel que vous l'analysez vraiment ce matin et vendredi dernier. Une des critiques qui est mise ce matin, depuis qu'on a fait quasiment toute la matinale sur TF1 M6, c'est la question de la vision du marché de demain. Est-ce qu'il n'a pas carrément rien à voir avec celui d'aujourd'hui. Je voudrais vous faire écouter avant que vous répondiez. Philippe Bailly, c'est le président fondateur de NPA. C'est un spécialiste des médias. Il était avec nous tout à l'heure.
On n'est pas sur une menace lointaine. On est sur des acteurs, ceux de du display vidéo, comme on les appelle, qui payent déjà très lourd, en centaines de millions d'euros sur le marché. Et on est sur des acteurs qui arrivent Netflix ou Disney. Netflix avec de la pub dans les conditions qu'ils ont annoncées et différentes hypothèses, scénarios. On arrive à 300 millions d'euros de chiffre d'affaires par an, ce qui en ferait la quatrième régie française, plus que Canal.
Oui.
Là, je trouve que c'est pas simplement de la myopie. C'est... on voit l'objet, mais on le mentionne, mais on refuse d'en tenir compte. Et c'est là où, pour moi, c'est étonnant.
Philippe Bailly parle de myopie, comme s'il y avait une mauvaise compréhension du marché actuel.
Non, ces évolutions, elles sont là, elles sont incontestables. D'ailleurs, dès 2019, l'autorité de la concurrence avait émis un avis sur l'audiovisuel qui disait « ça va bouger, c'est en train de bouger » et les grandes plateformes arrivent. Et depuis 2019, il s'est passé beaucoup de choses, et même au cours des dernières semaines, quasiment. Puisque M. Bailly parlait de Netflix, c'est quelque chose qu'on a appris il y a quelques semaines. Donc oui, ça bouge, mais la question en termes de concurrence, c'est est-ce que c'est le même marché ? Est-ce que c'est le même type de publicité ?
Netflix, effectivement, vous l'avez raison, a annoncé il y a quelques semaines que pour faire des abonnements moins chers, voilà, il proposerait aux clients qui le souhaitent de payer moitié prix, mais d'avoir de la pub.
Tout à fait, tout à fait. Mais la question, c'est... Et puis, il y a déjà, évidemment, il y a de la pub sur YouTube, ouais, il y a de la pub sur les grandes plateformes. Il y a de la pub sur Amazon, autour du foot, autour du, ouais, du fameux match de tennis.
Donc, c'est le marché pertinent, c'est cette fameuse définition.
La question, pour nous, vraiment, la question, c'est est-ce que ce nouvel ensemble va se servir de son pouvoir de marché pour augmenter les prix? Ce qui léserait les annonceurs, donc les entreprises françaises, hein, je veux dire, derrière les annonceurs, c'est les entreprises qui vendent leurs produits et leurs salariés, et les téléspectateurs. Et donc la question, c'est est-ce que c'est le même type de pub? Or, rien ne permet de dire aujourd'hui que c'est le même type de pub. Les plateformes vont vers de la publicité qui sera ciblée, parce qu'elles savent tout sur vous. Elles savent ce que vous avez regardé et quand. Et même si elles font d'autres, si elles ont d'autres activités, si c'est Amazon, elles savent aussi ce que vous avez acheté, etc. Elles vont faire de la publicité, vraiment de la dentelle très ciblée. Et elles s'adressent à des gens qui ne regardent pas le même programme en même temps. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de téléspectateurs devant Netflix le soir, ils regardent tous des programmes différents.
Oui, d'accord, mais regarde, donc c'est segmenté. Je suis un gros annonceur, il y a les grands groupes qui ont basculé une grande partie de leurs investissements sur justement ce type de publicité ciblée. Il y a des grands groupes, on avait le patron de L'Oréal qui nous l'expliquait il y a quelques mois, qui met 70% de son investissement publicitaire sur le digital et plus sur la pub télé. Donc oui, il y a bien une concurrence entre les deux.
Mais L'Oréal est plutôt une exception, et quand on a préparé cette décision, on a interrogé l'ensemble des annonceurs, hein. On a interrogé plus de 1000 annonceurs, la majorité d'entre eux nous ont dit, ces deux publicités restent différentes, la télé c'est un média de masse, c'est un média fédérateur, c'est des gens qui sont le soir en famille devant leur écran, et ça permet de toucher plusieurs millions de personnes en même temps. Donc pour lancer un produit, si vous lancez une voiture, vous la lancez à la télé. Netflix, Amazon, ça existe, c'est important, c'est pas le même type de publicité. Alors, est-ce que ça va changer? Oui.
Oui,
bien sûr.
Et à quel rythme?
Peut-être que dans 5 ans,
demain,
ça sera différent.
Bah oui, ça sera trop tard pour faire TFM6 dans 5 ans.
Mais donc, je conteste pas la vision des promoteurs du projet. Ils ont leur vision qui est respectable. C'est des industriels. Ils ont leur vision. La question pour nous, c'est est-ce qu'on peut prendre une décision aussi structurante sur la base d'une vision? Les chiffres, les
la vision industrielle, c'est pas vous, c'est ça? C'est ça que vous voulez dire? C'est pas votre travail?
Bah, d'abord, il y a une vision de TF1 et de M6 ou de Bouygues et de Bertelsmann qui n'est pas partagée par la majorité du marché. Donc, quand on écoute les industriels, faut tous les écouter, pas seulement ceux qui ont un intérêt à l'affaire. Et les concurrents, les fournisseurs, les clients nous disaient attention. Ils exagèrent et en fait ces deux marchés publicité sont séparés.
Alors si c'est pas votre boulot, et je comprends, hein, vous avez un mandat, vous êtes l'autorité de la concurrence, donc vous avez fait, vous avez audité, inspecté, recueilli les témoignages, vous avez décidé. Si c'est pas votre vision, c'est la vision de qui? Que fait Bruno Le Maire au ministère de l'économie? Est-ce que c'est pas à l'État d'avoir une vision industrielle? Parce que TF1-M6, peut-être que c'était la taille nécessaire pour lutter contre Netflix qui investit 500 millions par an dans les programmes, c'est la moitié de ce que fait TF1.
Alors c'est vrai, vous posez la question du lien entre la politique de concurrence et la politique industrielle. Ouais. Finalement, il faut une politique industrielle. Bien sûr qu'il faut des grands acteurs forts sur le marché mondial, des grands acteurs français. On est absolument pour. Mais la question, c'est comment est-ce qu'ils se constituent? Dans ce cas précis, ils se seraient constitués en créant un pouvoir de marché au détriment des entreprises françaises, des annonceurs français et des téléspectateurs français. C'est ça le sujet.
Mais on a l'impression que ni Bercy, ni le ministère de la Culture ne se sont vraiment emparés du dossier et ont, parce qu'il aurait pu, par exemple, Bruno Le Maire, ce qu'on appelle évoquer le dossier, c'est-à-dire de ne pas tenir compte de votre avis et décider d'autoriser la fusion. Et d'ailleurs, Bertelsmann et Bouygues ont demandé à Bruno Le Maire s'il avait l'intention d'évoquer. Bruno Le Maire a dit que non.
Alors moi, je ne peux pas parler pour Bruno Le Maire, mais c'est vrai qu'il faut une complémentarité entre la concurrence d'un côté, qui a un certain rôle à jouer, et une politique industrielle forte. Mais la politique industrielle sans concurrence, c'est dangereux, parce que ça veut dire moins d'innovation et ça veut dire des rentes pour les acteurs en place.
Ça, c'est votre boulot.
Il faut les deux, ouais. Chacun son rôle.
Notre journaliste média Simon Tenenbaum nous racontait ce matin que certains protagonistes du dossier trouvaient que l'autorité de la concurrence était dogmatique et intégriste. Parfois, c'est des critiques qu'on fait aussi à des banquiers centraux. Vous avez l'impression que c'est le même boulot?
Vous avez été banquier central au sein de la BCE. Hein.
Oui, c'est vrai. Alors, d'abord, l'autorité de la concurrence n'est pas intégriste. Il y a 3 mois, on a autorisé autorisé la fusion de But et de Conforama en disant ça pose de lourds problèmes de concurrence, mais on l'autorise quand même. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas le choix. Et derrière, il y avait des milliers d'emplois en jeu.
Vous aviez autorisé Fnac Darty aussi.
On avait autorisé, c'était pas moi, mais c'était à l'époque Fnac Darty.
On dit pas non à tout, ça que vous voulez dire.
On dit pas du tout non à tout. Simplement, on applique des règles qui sont celles du Code du commerce et on consulte l'industrie. J'insiste beaucoup là-dessus. On a écouté ce que l'industrie avait à nous dire et ce que l'industrie nous a dit, c'était pas la même chose que ce que Bouygues et Bertelsmann nous ont dit.
Alors, la rédaction de BFM Business est mobilisée sur ce dossier depuis tout le week-end. J'ai par exemple Frédéric Simotel, l'un de nos autres journalistes, qui nous dit l'autorité de la concurrence a empêché les chaînes nationales de faire du décrochage publicitaire en région. Résultat, aujourd'hui, qui est numéro un de la pub en région, c'est Google. Est-ce qu'il ne va pas se passer ça sur le marché national ?
Ça fait partie des évolutions en cours. Moi, j'ai pas de doute que la pub ciblée ou segmentée va continuer à se développer. Ouais. Alors, en face, il y a la presse quotidienne régionale. Donc, si il faut aussi.
Mais la PQR, pareil. Le premier investisseur de pub local, maintenant, c'est pas la PQR. C'est Google et Facebook.
Justement, il faut pas que ce mouvement-là se fasse en tuant la presse quotidienne régionale. Là, il y a des équilibres. Et à nouveau, il y a des équilibres qu'on va regarder du point de vue de la concurrence, mais que le ministère de la Culture, le gouvernement, doit aussi regarder du point de vue de la pluralité de la presse.
Mais vous n'avez pas peur que dans 5 ans, on dise, vous voyez, ce qu'ils avaient fait pour la presse quotidienne régionale, ils l'ont fait pour les télévisions. Et TF1-M6, c'est le futur Alstom-Siemens. On avait loupé le coche d'une fusion européenne.
Alstom-Siemens, c'est intéressant comme référence, parce qu'à l'époque, ce n'était pas nous, c'était la Commission
européenne. C'était la Commission européenne,
On a dit à la Commission européenne, si vous interdisez cette fusion, dans 5 ans, tous les trains, tous les TGV seront chinois. Ouais. Ils ont interdit la fusion, les TGV ne sont pas chinois.
C'est quoi l'avenir ? Bon, alors, c'est fini. L'avenir pour M6, on sait qu'il y a un calendrier très précis avant Pâques. S'il faut qu'il y ait une vente, ça doit se faire avant cette échéance. Ça veut dire que vous étudierez en mode accéléré tout ce qui peut être proposé ?
Alors, il y a un calendrier qui est fixé par l'ARCOM, qui joue un rôle très important dans tout ce dossier. Et on a travaillé avec l'ARCOM, bien sûr.
Avec, évidemment, je rappelle pour ceux qui nous écoutent et nous regardent, le renouvellement de l'autorisation d'émettre de M6, qui doit avoir lieu avant mai.
Voilà, donc tout ça dépend.
Et après, pendant 5 ans, on est bloqué, on peut plus vendre.
Voilà, ça c'est la loi actuelle. C'est la loi actuelle. Il faut peut-être y réfléchir d'ailleurs, mais c'est la loi actuelle.
Vous êtes pour le changement de cette clause qui interdit de revendre une licence 5 ans après ?
Je pense que ça ajoute une rigidité dans un système qui est déjà très rigide. Maintenant, c'est à l'ARCOM de réfléchir à ces questions-là. Je veux pas aller sur le terrain de Roch-Olivier Maistre. L'ARCOM regardera ces procédures. Est-ce que il y aura une autre offre ? Ça, franchement, il faut demander à Bertelsmann. C'est pas moi qu'il faut demander.
Non, mais il faudra un calendrier accéléré dans ce cas-là.
Il faudra un calendrier accéléré si c'est possible. Oui, bien sûr.
Vous pourrez le faire parce que est-ce que ça veut dire que ça interdit tout groupe de médias de faire une offre sur M6 ? Alors, j'en parle d'autant plus librement qu'il faut le redire. Effectivement, on est dans un groupe de médias qui potentiellement pourrait candidater, mais comme Xavier Niel, comme Kretinsky, comme Bolloré. Est-ce que tous ces noms que je viens de citer ne peuvent pas racheter M6 parce que votre calendrier est trop serré d'ici mai ? Ou est-ce que vous leur dites ce matin, si vous faites une offre, on étudiera plus rapidement le dossier ?
Alors, ce n'est pas le nôtre, c'est celui de la loi, c'est celui qui est fixé par la loi et qui est mis en œuvre par l'ARCOM. Et oui, il est serré. Oui, il faudra faire des efforts collectifs
pour
trouver une solution. Maintenant, je note que selon l'acteur intéressé, ça pourrait aussi bien aller à la Commission européenne. Si c'est un acteur de taille européenne ou de grande taille, quel qu'il soit, le dossier sera traité par la Commission européenne.
Mais ça, c'est pas possible parce qu'il y a ce fameux couperet du mois de mai.
La Commission européenne peut aussi être rapide quand il faut, donc ça sera à eux de le faire.
Vous n'avez pas peur que du coup, avec ces contraintes qui sont pas de votre fait, ça condamne au fait que le rachat ne puisse être exercé que par un groupe qui n'a rien à voir avec l'audiovisuel, encore un groupe puissant et riche, qui pourrait investir dans l'audiovisuel à cette occasion, et vous n'avez pas peur que ça morcelle encore plus le secteur des médias en France et en Europe ?
Pas forcément. Je pense que si ça fait, enfin moi j'ai absolument pas j'ai aucune information et j'ai pas de préconisation dans ce domaine naturellement. Mais la diversité est aussi bonne pour la diversité du choix pour le téléspectateur et pour la diversité des options pour les producteurs de films pour les annonceurs. Donc la diversité peut être bonne et elle peut être bonne aussi pour le pluralisme qui relève là encore de l'ARCOM et pas de nous, mais c'est quand même c'est un critère très important, maintenir le pluralisme, notamment de l'information à la télévision.
À vous entendre, on a l'impression que vous êtes pour la fragmentation du marché, alors qu'on n'arrête pas de dire qu'effectivement il y a des géants américains qui sont en train de nous de passer comme un rouleau de compresseur sur les petits groupes européens.
Non, pas du tout. Simplement, je pense que la constitution de pouvoir de marché ne doit pas se faire au détriment des entreprises françaises et des téléspectateurs français. Et puis par ailleurs, les géants américains, il faut aussi les contrôler, hein. Et l'autorité de la concurrence, comme vous le savez, a pris des décisions majeures, lourdes, contre les plateformes américaines, contre Google, contre Meta, c'est-à-dire Facebook, contre Apple, au cours des dernières années et des derniers mois. Donc certainement, on va continuer à être très strict sur les comportements et le pouvoir de marché des grandes plateformes américaines.
Avec des amendes records.
C'est aussi l'équilibre de notre position. Hein.
Ouais. L'autre sujet, c'est l'emploi. Est-ce que vous n'avez pas peur que dans les mois prochains, TF1, par exemple, dise « ma seule possibilité, c'est la réduction des coûts ». Bah oui, c'est de la faute de l'autorité de la concurrence.
Ils diront ça s'ils veulent dire ça, ils diront ça. Moi, j'ai pas de commentaires à faire sur l'organisation de TF1.
Mais ça peut être une des possibilités à l'avenir. C'est-à-dire que le plan B, c'est ça aussi. Ce sont les économies, c'est baisser la voilure partout.
De poser ces questions à Gilles Pélisson, ce que vous appelez baisser la voilure, c'est aussi réformer, faire des gains de productivité, moderniser, investir. Je veux dire, au-delà de cette décision, bien sûr, toutes les chaînes vont investir dans le numérique, toutes les chaînes vont aller vers des modèles avec des applications OTT, hein, comme on dit, c'est-à-dire des applications qu'on peut regarder sur l'ordinateur et pas forcément à travers le fournisseur d'accès Internet, vont créer leur propre écosystème. Et ces investissements-là sont nécessaires pour toutes les chaînes, fusion ou pas fusion, et ils vont le faire de toute façon, j'en suis sûr.
Un dernier mot, votre prochain gros dossier, c'est le cloud. On parle beaucoup du cloud souverain, notamment en France et en Europe, pour contrer là encore les géants américains. Est-ce que vous pourriez empêcher le développement du cloud souverain au nom justement de la concurrence et de dire qu'il y a trop d'offres liées et que finalement c'est enfermer les entreprises que de les assigner à cloud souverain?
C'est un exemple d'un domaine où on est très vigilant vis-à-vis des grands acteurs mondiaux, c'est-à-dire américains, la Commission européenne également, hein, d'ailleurs, avec notamment des phénomènes comme les crédits cloud, toutes les pratiques qui visent à enfermer les start-up, les utilisateurs du cloud.
Les PME aussi. Hein.
Les PME dans des écosystèmes dont ils auront beaucoup de mal à sortir. Tout ça, c'est des pratiques qu'on regarde de près, que la Commission européenne regarde de près. Et on parle étroitement avec la Commission pour voir ce qu'on va faire.